Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Joyeux Noël, France Inter, il est 8h et c'est le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour, Noël en petit comité, chacun sur son coin de table et masqué. Heureusement, on peut toujours compter sur les bonnes blagues du tonton ou du grand-père. Une famille nous a ouvert ses portes à l'heure du repas, reportage à suivre. Happy Xmas, le divorce à l'amiable, le soir de Noël entre Londres et Bruxelles. Le Royaume-Uni sort du marché unique au 1er janvier. Un accord de libre-échange inédit, sans droit de douane, ni quota, consensus sur la pêche. On verra dans le détail ce qu'il faut retenir et si cet accord de 2000 pages est gagnant-gagnant des deux côtés de la Manche. Au sommaire aussi, le Japon, rattrapé à son tour par le Covid. Et puis les séries à l'eau de rose pour Noël, on vous en a dégoté une, toute fraîche moulue. Rendez-vous à la fin du journal. Un Noël si particulier, c'est vrai aussi pour les chrétiens. On va en parler avec l'archevêque de Reims, votre invité Laetitia à 8h20.
Oui, Éric de Moulin-Beaufort, invité du grand entretien de la matinale. Quel Noël cette année, l'impact du coronavirus, comment va l'église en cette fin d'année 2020? Appelez-nous dès à présent au 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter.
Gel hydroalcoolique sur la table, masque sur le nez. La dinde n'a pas tout à fait la même saveur cette année. Avec le casse-tête des retrouvailles sans danger, Rémi Brancato a passé le réveillon dans une famille de Victor-sur-Loire, près de Saint-Étienne, habitué à recevoir jusqu'à 30 personnes normalement le soir de Noël.
Il n'y a que 7 couverts autour de la table chez Annie, Marius et leur fils Benoît, avec un plan préétabli.
Où est-ce qu'on s'assoit, Benoît ?
Moi, à côté de mes parents, parce que je vis ici, et ma sœur, mon beau-frère et mes nièces, un peu plus loin.
On reste à distance et on garde les masques, sauf pour manger, évidemment.
Santé !
À une meilleure année !
Et à tous ceux qui ne sont pas là, avec qui on fêtera pas Noël cette année, mais on les attend l'année prochaine.
Virginie, la grande sœur, trouve le salon bien vide.
On ne se croit pas à Noël, ça fait plus repas du dimanche avec mes parents, mon frère, même si les mets sur la table sont meilleurs.
Marius, son père, est un peu triste.
On est 3 fois moins nombreux. D'habitude, il y a plus d'ambiance. On était 25, on se retrouve à 7. Il y avait des neveux, les petits neveux, les conjoints des petits-neveux. Il vaut mieux rester en petit comité. C'est plus prudent.
Plus prudent, mais
c'est moins bien.
Chloé, 15 ans, une des deux filles de Virginie.
Parce que d'habitude, on rigole, on se voit tous et on a plus de cadeaux.
Les traditions sont bousculées par l'épidémie, mais certaines ont la vie dure, comme les blagues de Marius.
J'ai un conseil là pour les gens, pour bien se laver les mains. Il y a un spécialiste, c'est Ponce Pilate. Oui, il s'en lave les mains.
Ça change un peu, il renouvelle ses blagues. Ouais. C'est sur le Covid, c'est peut-être moins drôle, mais au moins, on a le droit à des inédites.
Et tout de même une petite coupe pour échanger les cadeaux.
Voilà, Rémi Brancato à Saint-Victor-sur-Loire. Et puis le Covid qui donne un air de désert à Bethléem, d'habitude bondé en ce jour de Noël. Plusieurs messes hier aussi en France, pas de minuit, mais plutôt étalée sur toute la journée pour éviter les gros rassemblements. Une image qui détonne toutefois, celle de ces 750 fidèles regroupés au Palais des Sports de Levallois-Perret, près de Paris. La préfecture n'avait, dit-elle, pas donné son accord.
C'est le cadeau de dernière minute que s'offrent Londres et Bruxelles à 7 jours de la date butoir, accord commercial post-Brexit conclu hier.
Un texte de 2000 pages. Il aura fallu presque autant de jours de discussion pour y arriver, mais cette fois c'est bon. Européens et Britanniques échappent au Brexit dur, au no deal. L'accord fixe les règles de l'après-Brexit, un accord de libre-échange juste, a dit hier la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. 4 ans de feuilleton, 10 mois de négociations acharnées, plus que soulagé, presque euphorique hier soir Boris Johnson. Le Premier ministre britannique partage une vidéo pour ses concitoyens et le voilà qui brandit cet accord de 2000 pages devant la caméra.
And by the way, tonight,
et au fait, ce soir, pour ce réveillon de Noël, j'ai un petit cadeau, et le voilà, c'est un accord avec nos amis et partenaires de l'Union Européenne. Je crois que ce sera la base d'un partenariat heureux, fructueux et stable avec nos amis pour les années à venir. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle.
Soulagé aussi, évidemment, mais beaucoup moins enthousiaste. Michel Barnier, le négociateur en chef de ce Brexit. Un divorce, même à l'amiable, c'est toujours triste.
Il n'y a pas de gagnant dans le Brexit, c'est perdant-perdant, c'est un affaiblissement que de se séparer. Le Royaume-Uni a choisi d'être solitaire plutôt que de rester solidaire. Moi, je le regrette. Le Brexit, c'est pas business as usual. Il va y avoir beaucoup de changements dès la semaine prochaine. Et ça ne sera pas la même chose d'être en dehors de l'Union européenne que d'être dedans. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
La semaine prochaine, le 1er janvier précisément, le D-Day, D comme départ. Le Royaume-Uni, après avoir quitté l'Union sur le plan politique, sort du marché unique. Bonjour Fabien Cazot.
Loiseau.
Bonjour.
On va entrer dans le dur avec vous. Un no deal, on le sait, aurait été scénario catastrophe avec droits de douane et quotas. Mais on vient d'entendre Michel Barnier, il va y avoir du changement quand même. Très concrètement, lesquels ?
Du changement d'abord pour les déplacements et les voyages. Un passeport pour les touristes, un visa pour ceux qui veulent s'installer plus de 3 mois. Il faudra justifier d'une offre d'emploi, d'un certain salaire ou encore maîtriser correctement l'anglais. Pour les étudiants, plus d'Erasmus. La Grande-Bretagne quitte le programme européen. Trop cher pour Londres, estime Boris Johnson, qui annonce la création de son propre programme d'échange. Pour les entreprises, il reste bien le principe de libre circulation des marchandises. C'était important, notamment pour éviter les ruptures de chaînes logistiques dans les entreprises installées des deux côtés de la Manche. L'Union européenne laisse à son ancien État membre l'accès à son immense marché de près d'un demi-milliard de consommateurs, sans droit de douane ni quota. Mais attention, un certain nombre de conditions sont posées, notamment en matière d'environnement, de droit du travail et de fiscalité.
Alors si par exemple les Britanniques ne respectent pas toutes ces règles, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, un mécanisme prévoit qu'en cas de manquement, les droits de douane puissent être réactivés. Plus largement, un conseil conjoint sera mis en place pour veiller à la bonne application de l'accord. Une nouvelle structure donc, et pas la Cour de justice de l'Union européenne dont Londres ne veut plus entendre parler.
Arrêtons-nous un instant sur la pêche, gros dossier qui aura monopolisé les débats ces dernières heures, ces derniers jours. L'Union européenne finalement renonce à 25% de ses quotas de pêche dans les eaux britanniques. Des milliers de pêcheurs français forcément impactés. Vous restez avec nous, Fabien Cazot. Je vous propose d'abord d'écouter la réaction de Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, ancien secrétaire d'État chargé de la pêche. Il répond à Maxime Debs.
On parle de moins 25, mais c'est quoi moins 25 ? Sur quelle zone de pêche ? Sur quelle espèce de poisson ? On parle de quoi ? Les poissons, ils n'ont pas demandé la nationalité britannique. Le poisson, il vit dans la mer. Et la mer, elle n'appartient à personne. Il y a des zones de souveraineté, certes, mais ces accords, ils doivent porter sur des choses objectivées. Avant l'accord Brexit, nous avions une seule question. Y aura-t-il ou non un accord ? Eh bien, maintenant qu'il y a un accord, nous avons 100 questions.
Fabien Cazot, a-t-il raison, Frédéric Cuvillier, de s'inquiéter ainsi ? Vous n'allez pas répondre aux 100 questions. Mais est-ce que l'Europe est perdante sur ce dossier de la pêche ?
Disons que ça aurait pu être pire. Effectivement, l'Union européenne va devoir renoncer à 25% de ses prises de pêche dans les eaux britanniques, mais il était question au départ de 80%. C'est indiscutable, la négociation a fait bouger les lignes sur un dossier que Londres a érigé en symbole de souveraineté. Mais après, quel contrôle ? Comment cette règle évoluera-t-elle dans le temps, puisque ces 25% sont un objectif à l'horizon 2026. Comment on y arrive d'ici là ? Quel rythme ? Et comment on fera ensuite, puisque l'accès aux eaux britanniques sera ensuite renégocié annuellement ? Il demeure un certain nombre d'inquiétudes chez les pêcheurs français. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé hier soir une aide forfaitaire pour eux, pouvant aller jusqu'à 30 000 euros en fonction de leur dépendance aux poissons pêchés dans les eaux britanniques.
Fabien Cazot, chef du service économie ici à France Inter, un grand merci à vous pour toutes ces précisions nécessaires, car on l'a entendu, le dossier est complexe. Pour la suite, eh bien, les députés britanniques sont convoqués le 30 décembre, veille de la rupture, pour débattre de l'accord. Le texte doit aussi être approuvé par les chefs d'État du Conseil de l'Europe et ensuite par le Parlement européen. Autant dire que l'accord devrait être validé a posteriori, plutôt courant janvier. Enfin, le Brexit, un feuilleton de 4 ans, résumé pour vous, 5 minutes de lecture, pas plus, c'est promis, et c'est sur franceinter.fr.
Noël dans la cabine, sur un parking.
Des centaines de routiers français toujours bloqués de l'autre côté de la Manche. L'embouteillage avec l'interruption du trafic pendant 48 heures en début de semaine pour cause de variante Covid. Les rotations de ferry vont se poursuivre exceptionnellement ce jour de Noël, assure la direction du port de Calais. Les traversées qui ne se feront d'ailleurs que dans le sens d'Ouvres-Calais. Autorisation aussi pour les chauffeurs de poids lourds de rouler aujourd'hui et dimanche prochain dans tout l'Hexagone. Ça s'accélère aussi du côté de l'Eurotunnel qui affirme pouvoir faire passer 3000 camions d'ici ce soir. Les équipes ont été renforcées. Le Covid et ses conséquences économiques, lourd plan social chez Airbus, mais comme un coin de ciel bleu hier, veille de Noël pour les salariés. 4300 postes devaient être supprimés. Finalement, il ne devrait pas y avoir de licenciement sec ou de départ contraint. Départ anticipé plutôt, il y a aussi les aides du gouvernement. Et puis la crise vue du bon côté, ça c'est notre série de la semaine. Dernier épisode ce matin. Les restaurants, on le sait, payent cher parmi les premiers commerces fermés. Mais voici un resto italien qui a su se réinventer, transformer en primeur des fruits et des légumes pour remplacer pizza et lasagne. Une autre façon aussi de lutter contre le gaspillage, Célia Kiré.
Alors il y a des courges, il y a des carottes, il y a des pommes de terre évidemment.
Et plus surprenant, des grenades, des kakis ou des oranges de Sicile tout en haut de la butte aux cailles. Céline Manville, gérante du resto Les Cailloux, n'a plus de convives à table, mais sa terrasse est colorée par des dizaines de cagettes de légumes et de fruits.
On s'est complètement reconverti, on est devenu traiteur, primeur, épicier. On vend pas encore de brosse à dents et de doliprane, mais et aujourd'hui on vend les légumes de notre ferme. Et du coup, nos agriculteurs qui avaient fait leur plan de culture en fonction des commandes qu'on avait passées un an avant, se sont retrouvés avec tous ces magnifiques légumes. Comme ils ne savaient pas quoi en faire puisque les restaurants sont fermés et qu'eux travaillent principalement avec des restaurateurs, on a décidé de continuer à leur acheter ces légumes et à les vendre. C'était des légumes qui étaient voués à partir à la benne.
Et cette gérante profite de l'engouement du moment pour le bio, les circuits courts ou les légumes plus rares.
Il y a des clients maintenant qui savent que chez nous, ils peuvent trouver de la trévise.
Ou des châtaignes de Sicile, je vois.
Ou des châtaignes de Sicile, puisqu'on continue du coup également à travailler avec des fournisseurs italiens. Cette histoire se transforme un peu en cercle vertueux parce que du coup, ça permet à tout le monde de survivre et de continuer son activité, même si nous, c'est une façon différente. Nous, on arrive pratiquement à l'équilibre.
Et quand la crise sera passée, la vente de légumes et de produits fins continuera, peut-être. Céline Manville recherche un local dans le quartier, histoire de poursuivre cette aventure.
Reportage Célia Kiré. Feu vert hier, sans surprise, de la Haute Autorité de Santé pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Les premières doses arrivent en France demain et les toutes premières injections dimanche dans 3 EHPAD de Bourgogne et d'Île-de-France. Premières injections hier aussi pour l'Amérique latine, au Chili ou au Mexique, avec le personnel soignant en priorité. Et ce pays, si souvent cité en exemple, le Japon, depuis quelques semaines, confronté à la troisième vague, de loin la pire. 4000 cas par jour, du jamais vu encore dans ce pays. Les médecins japonais tirent la sonnette d'alarme. Karine Nishimura à Tokyo pour France Inter.
Le docteur Ozaki dirige l'association médicale de Tokyo et selon lui, le système hospitalier est au bord de l'effondrement.
Pendant les 3 semaines à venir, je vous en supplie, après le travail, rentrez directement chez vous. C'est la dernière chance.
Tokyo, mégapole de 14 millions d'habitants, n'a en temps normal que 150 lits pour les patients en grande détresse. On pousse les murs, mais l'exercice a ses limites. Il faut vite stopper les infections, selon le médecin Masataka Inokuchi.
Il y a de très fortes tensions dans les hôpitaux qui accueillent les urgences. On en vient à refuser les patients.
Le gouvernement a traîné pendant des semaines avant d'accepter de stopper, à partir de lundi prochain seulement, une campagne d'incitation au tourisme à travers le pays, privilégiant clairement l'économie.
Le corps médical a déclaré l'état d'alerte maximal, mais une déclaration seule ne suffit pas.
Le corps médical aux abois sera-t-il entendu ? Le Premier ministre Suga, en chute libre dans les sondages, doit s'exprimer ce vendredi en fin de journée. La probabilité est faible cependant qu'il annonce des mesures drastiques. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
Et pour mémoire, le Japon est toujours censé accueillir les Jeux Olympiques le 23 juillet prochain. La colère monte à Columbus dans l'Ohio aux États-Unis. Deuxième fois en 3 semaines qu'un habitant noir est tué par la police. Le premier rentré chez lui après avoir acheté à manger. Le deuxième tué mardi dans le garage de sa maison. Et à chaque fois, les victimes n'étaient pas armées. Cérémonie à Amber dans le Puy-de-Dôme lundi après-midi en hommage aux 3 gendarmes tués cette semaine. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Armées Florence Parly seront tous les deux présents.
Et puis coup dur pour les éleveurs de canards.
L'addition est plus que salée. C'est même à Noël à mettre à la poubelle pour certains, alors que c'est la période du foie gras. Foyer de grippe aviaire détecté. 40 000 volailles en cours d'abattage en Chalosse dans les Landes. Marie-Hélène Cazobon, présidente de la Chambre d'agriculture.
C'est quelque chose qui est très difficile à vivre, d'avoir des animaux qui sont éliminés. Maintenant, on est dans vraiment de la prévention et on veut aller plus vite que le virus. Donc le virus est présent sur le territoire, surtout sur ces zones-là. Et le fait de faire une barrière sanitaire en éliminant les animaux qui sont dans un rayon de 3 km autour des foyers qui avaient été détectés permettra, c'est ce que nous espérons et qui a de grandes chances d'aboutir, permettra vraiment d'éviter une diffusion du virus au-delà de ces zones-là. Pour les producteurs qui sont concernés, ça va être très très dur à vivre. Tout est fait pour que la MSA, les services de l'État, tout le monde soit à leur côté pour pouvoir vraiment travailler et les accompagner à traverser ces épreuves.
La présidente de la Chambre d'agriculture des Landes avec Renaud Biondi-Mauger, France Bleu Gascogne. Attendu comme le Père Noël, titre l'Équipe ce matin à propos de Mauricio Pochettino. L'entraîneur argentin choisi par la direction du PSG croit savoir le quotidien pour remplacer Thomas Tuchel. Limogeage surprise hier à 6 mois de la fin de son contrat. Enfin, il n'y a pas que le champagne qui coule à flot en ce jour de Noël. L'eau de rose aussi. Oh. Fiction de Noël, tradition des anglo-saxons qui a largement traversé les frontières ces dernières années. Eh bien, cette fois, on retiendra celle de Shonda Rhimes, à qui on doit, entre autres, Grey's Anatomy. Elle signe une série, la chronique de Bridgerton, historique, mais surtout, Alexandra Akoun, romantique à 100%.
Romantique, pas de doute, c'est même devenu la marque de fabrique de Shonda Rhimes, qui, loin de Grey's Anatomy et Scandale, nous transpose cette fois-ci dans le Londres du début du 19e siècle. La saison mondaine est sur le point d'être lancée et comme toutes les jeunes filles de bonne famille en âge d'être mariées, Daphné, l'aînée des Bridgerton, s'apprête à faire son entrée dans la haute société.
Tu n'imagines pas ce que c'est qu'être une femme, de savoir que sa vie tout entière se réduit à un seul instant. Si je n'arrive pas à trouver un mari, je ne vaudrai plus rien.
Intrigue amoureuse à tiroir, battement de cils et bruissement de jupons, en faisant très attention, qu'en dira-t-on ?
Ma réputation est en jeu. Avez-vous la moindre idée de ce qui se passerait si quelqu'un ne faisait que suggérer que j'ai... Je dois y aller.
Épousez-moi, Miss Bridgerton.
En matière de demande en mariage, c'est sans doute la moins romantique qui soit.
Adaptée des 8 romans à succès de l'américaine Julia Quinn, la chronique de Bridgerton nous fait la totale dans un tourbillon de décors sublimes à la Jane Austen. Côté historique, c'est une autre affaire. Militante pour une meilleure représentation à l'écran des minorités, Shonda Rhimes a opté pour un casting inclusif, des comédiens choisis pour leur talent et non leur couleur de peau. Exemple, la reine d'Angleterre est noire, le duc d'Hastings aussi, et c'est très bien. Une petite notice explicative sur cet anachronisme historique n'aurait cependant pas été un luxe.
Voilà, si vous voulez boulotter des fleurs bleues, Laetitia, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. La chronique de Bridgerton, c'est sur Netflix.
Merci Hélène Roussel,
lovely. Et joyeux Noël.
Et joyeux Noël.